Il avait au surplus son chapeau tout plein d'images, la plupart de plomb ou d'étain, lesquelles, à tout propos, quand il lui venait quelque nouvelle, bonne ou mauvaise, ou que sa fantaisie lui prenait, il les baisait, se ruant à genoux, quelque part qu'il se trouvât, si soudainement quelquefois, qu'il semblait plus blessé d'entendement que sage homme. Portrait de Louis XI par Claude de Seyssel en 1508.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
La semaine dernière, nous avions été en compagnie de Jacques d'Armagnac et de Louis XI. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de continuer à rester avec le souverain, le roi de France, Louis XI, roi de France entre 1461 et 1483, et de s'intéresser en particulier à la religiosité du roi. Cet homme du XVe siècle se vit effectivement comme un bon chrétien, et on va voir quels sont, je dirais, les critères qui, à ses yeux, font véritablement une activité à la fois de foi, de pratique. D'autant plus que le XVe siècle est un siècle, je dirais, intéressant dans la mesure où il y a à la fois des aspects extrêmement traditionnels qui perdurent, et de ce point de vue-là, nous allons voir que Louis XI a des aspects traditionnels, mais également, c'est aussi un siècle où les élites chrétiennes cherchent à s'emparer, si j'ose dire, des Écritures et d'une véritable spiritualité. Et de ce point de vue-là, Louis XI est sans doute un peu à l'écart. Le premier point que je souhaiterais aborder, c'est sa relation avec l'Église elle-même, l'institution de l'Église. Il se vit comme un fils fidèle de l'Église, mais ne nous y trompons pas, il souhaite une église gallicane. Son père, Charles VIII, avait promulgué en 1438 la pragmatique sanction de Bourges, qui avait institué dans le royaume une sorte d'église nationale étroitement liée au pouvoir royal. Ainsi, les évêques étaient de plus en plus non pas élus par les chanoines de la cathédrale, mais bien désignés par le souverain, quitte bien sûr ensuite à demander l'investiture spirituelle au pape. Eh bien, Louis XI va se placer dans cette lignée. Non pas qu'au début de son règne, il n'ait pas hésité quelque peu. En effet, pour essayer d'obtenir, je dirais, l'appui de l'Église, il avait un peu desserré face à l'opposition de la grande noblesse, en 1461, la pragmatique sanction. Mais dès qu'il avait pu rétablir toute son autorité, eh bien, il était revenu en 1464 à une application stricte de la pragmatique sanction de Bourges, qui, d'une certaine manière, sera d'ailleurs confirmée par le concordat de 1516, signé par François Ier et le pape Léon X. Donc, sous Louis XI, il y a bien une église gallicane, c'est-à-dire une église catholique nationale, si j'ose dire, qui devient de plus en plus un élément fort de la monarchie. Sur le plan de la pratique religieuse, Louis XI est d'abord très attaché au culte marial. Il est effectivement un fils de Marie, si j'ose dire, et il est vrai qu'au XIVe et XVe siècle, le culte marial connaît un véritable essor populaire. Marie apparaît finalement comme une protectrice, comme l'intermédiaire majeur entre Dieu et les hommes. D'ailleurs, le roi ordonne de sonner l'Angélus accompagné de trois Ave Maria à midi. Et c'est une habitude que les Français vont avoir jusqu'à aujourd'hui. D'autre part, il décide également de ne pas être enterré à Saint-Denis, comme ses prédécesseurs et comme ses successeurs, mais à Notre-Dame de Cléry, qui est un centre marial aujourd'hui dans le département du Loiret, et où le corps du roi a été placé après son décès. D'autre part, il y a aussi chez lui un grand attachement au pèlerinage. C'est un homme qui a beaucoup bougé, les rois sont girovagues, c'est-à-dire qu'ils font le tour du royaume et ils ne sont pas installés que dans la capitale. Et véritablement, il va faire des pèlerinages à la fois dans des centres mariaux, mais également vers les centres où se trouvent de nombreuses reliques. Car véritablement, Louis XI est attaché aux reliques parce qu'il voit dans les reliques un élément protecteur. Donc il les collectionne, il les visite et dans la description que nous avons eue tout à l'heure du chapeau du roi, qui est une réalité historique, eh bien, il installait autour de son chapeau des médailles miraculeuses et des reliques de saints ou de saintes. Alors parmi les grands pèlerinages qu'a fait le roi, certains se font dans des lieux éloignés de notre région, comme le Mont Saint-Michel, où il est allé deux fois. Mais dans notre région, eh bien, il est allé à Rocamadour prier la Vierge, et il est venu à Toulouse, où il a fait le tour des Corsins à Saint-Cernin. D'autre part, c'est un homme aussi qui essaye d'acquérir les grâces du ciel par de nombreux cadeaux. Il a édifié de très très nombreuses églises, plusieurs centaines d'ailleurs, d'où un coût réel qui inquiétait par moments les responsables des finances royales. Mais par exemple, quand le dauphin Charles est tombé malade en 1470, 1475 et 1481, eh bien il a fait faire des statues de la Vierge de la taille du dauphin lui-même. Et ces statues pesait d'ailleurs le poids du futur Charles VIII. On pouvait trouver d'ailleurs à l'époque déjà que c'était peut-être un peu excessif, mais ça montre bien cette religiosité du don. En fait, Louis XI est un homme des œuvres. Il estime qu'il peut gagner véritablement les bienfaits du ciel si, il offre beaucoup d'efforts par le pèlerinage, beaucoup de statues, voire même, bien sûr, les constructions d'églises que j'évoquais plus tard. D'autre part, ce qu'il faut également remarquer, c'est que nous avons affaire à un roi qui, par contre, ne s'intéresse pas aux nouveautés spirituelles de son siècle. Je veux parler en cela de la publication vers 1430 d'un traité qui a eu une immense popularité dans la chrétienté du temps, l'Imitation de Jésus-Christ, qui est attribué à un chanoine néerlandais, Thomas Aquinpees, et qui a été traduit en français en 1446. L'ouvrage va devenir un véritable livre de chevet pour beaucoup de croyants, soucieux d'une vraie vie spirituelle. Or, on s'aperçoit que finalement, Louis XI ne s'intéresse pas à ses ouvrages. Il n'a pas dans sa bibliothèque d'imitation de Jésus-Christ. D'autre part, on a également cherché si Louis XI avait pratiqué une lecture. Est-ce qu'il était adepte, si ce n'est de traités de théologie, mais même des Écritures? Or, il ne semble pas que ce fût le cas. On n'a conservé de lui aucun missel, aucun livre d'heures qui aurait pu être richement enluminé, comme ce fut le cas, par exemple, du duc de Berry ou du duc de Bourgogne. Donc, c'est bien une religion des œuvres qu'il pratique, plus qu'une religion extrêmement spirituelle. D'autre part, et ce sera mon dernier point, c'est quelqu'un qui est très craintif vis-à-vis de la mort, comme la plupart de ses contemporains. Il redoute pour son salut. C'est pour cela qu'il va demander à François de Paul, du nom de Paola, une ville de Calabre, de venir le voir, car cet homme a une réputation de sainteté. Or, à partir de 1481, où le roi est atteint de troubles liés à des hémorragies cérébrales, eh bien, il pense qu'il faut vraiment à tout prix préparer le grand départ. François de Paul va donc venir à la demande du roi, et cet homme qui était terrorisé par la mort, et donc par l'après-mort, par son salut personnel, eh bien, le futur saint, puisqu'il sera canonisé en 1519, va arriver à l'apaiser. Et les dernières semaines du roi vont être beaucoup plus paisibles par rapport à ce qu'il avait connu dans les mois précédents, où véritablement la peur de la mort l'avait tétanisé. On peut dire de ce point de vue-là que, effectivement, la question du salut, Louis XI est un homme de son temps. Luther, par exemple, sera aussi un homme qui s'interrogera énormément sur le salut quelques dizaines d'années après la mort du souverain. Donc, vous l'avez compris, Louis XI a une religiosité réelle, qu'il a vécue d'ailleurs de manière sincère, faite finalement à la fois de traditions, comme les grands pèlerinages, le culte des reliques, l'attachement à Marie qui se développe beaucoup en son temps. Mais par contre, cette religiosité n'a pas été portée par la curiosité intellectuelle d'avoir accès aux Écritures ou d'avoir accès à ces livres de spiritualité qui pourtant ont connu un vrai développement au cours du XVe siècle.